Solitudinaire, chapitre 5. Le terminal. Qu'un naufrage courait tranquillement sur les rails quelques mètres devant Solitudinaire et Escar. Il semblait presque heureux malgré son éternel regard triste. Le cœur toujours silencieux, Solitudinaire ne cessait de regarder le ciel. Par instant, le soleil déchirait le ciel noir de la ville. Plus ils avançaient, et plus ils remarquaient que les maisons devenaient rares, que le soleil était de plus en plus présent, chaud, terriblement assassin. Les ombres firent leurs apparitions, dessinant en de longues lignes sombres au sol les murs vides. Ça ne veut rien dire. Solitudinaire regretta une seconde son bar, quand la soif vint titiller sa gorge. Il se serait bien laissé tomber sur les rails ou contre l'un de ces murs gris. Attendre qu'un train passe sur son corps ou que le soleil le dessèche entièrement. Mais ni l'un ni l'autre ne viendrait. Ici, on ne mourrait pas ainsi. Cadavriel lui avait bien montré à travers Escar. Alors, il posa un pied devant l'autre et continua la marche. Sur les côtés, entre les murs qui se raréfiaient, d'autres rails apparurent qui menaient tous dans la même direction. Le nord. Des petites dunes ainsi naquirent dans les cours vides, sur les rues adjacentes. Le sable envahissait tout, sauf les rails, qui devenaient de plus en plus nombreux et qui pointaient à l'horizon un énorme hangar en ruine, un château d'acier rouillé, avec en fond une dune qui cachait l'horizon. Une monstruosité. Escar la pointa de son doigt comme par respect. Solitudinaire ne voyait que l'immense carcasse. Cependant, quelque chose le chiffonnait. Au fond de lui, il sentait qu'il manquait quelque chose à ce décor. Il se retourna pour voir la ville au loin, mais découvrit des légions de wagons éventrés, des milliers de chaussures, de vêtements, de jouets d'enfants, de livres, de montres et de réveils, et bien d'autres objets qui avaient tous en commun d'être brisés, déchirés sur les rails. Mais rien de vivant ou de mort. Il y avait des wagons vides, mis à l'écart, au loin. Le pire dans tout cela, c'était qu'une ombre se dessinait sur ces cimetières, malgré l'immensité de cet astre funeste au-dessus d'eux. Une ombre planait sur ce silence, un voile. La ville semblait minuscule et son ciel ridiculement sombre. Une larme coula sur la joue de Vox. Le vide de son cœur résonnait avec une force frénétique avec le désert qui régnait ici. Une silhouette se détacha à l'horizon de brume. Une silhouette fine qui marchait à leur rencontre entre les wagons, qu'elle ne semblait pas voir. Blond. Qu'un naufrage courut vers elle, pied de sang, sous sa longue chevelure. « Que fais-tu là ? » demanda Solitudinaire quand elle fut à portée de voix. « Comment m'as-tu retrouvé ?»«
Je suis passé devant Umbrello. »
Le clochard à la peau de suie, le vieillard dont la chair nourrissait les mouches, Umbrello Schiarapinelli.
« Il m'a parlé de ce que tu voulais demander au bourreau, » dit-elle en arrivant à sa hauteur.
Solitudinaire détourna le regard. Il se retourna vers le château de Rouille et son soleil d'enfer. Il avança. Il ne voulait pas l'écouter. Il savait pertinemment que s'il la laissait faire, il devrait sentir éternellement ses aiguilles dans ses avant-bras. Pied de sang n'ajouta pas un mot et lui prit la main. Ensemble, ils avancèrent vers le château. Plus ils s'approchaient, plus ils découvraient l'immensité de la structure. Elle était entourée par une fosse titanesque, un gouffre béant serti de milliers de dents. Elle était entourée par une fosse titanesque, un gouffre béant serti de par de... Plus ils s'approchaient, plus ils découvraient l'immensité de la structure. Elle était entourée par une fosse titanesque, un gouffre béant serti de milliers de dents d'acier rouillé. La dune géante semblait avoir avalé l'arrière du bâtiment. Le silence. Seuls quelques tronçons menaient vers l'entrée, enjambant un cauchemar de vide. Les hôtes chutaient vers le néant. Au milieu du pont, se tenait une petite fille. Elle était assise, les pieds dans le vide. Elle ne les avait pas vus. Solitudinaire remarqua tout de suite sa rousseur. Deux petites couettes, à peine une dizaine d'années. Une longue robe bleue nuit, couverte de poussière et usée par le temps. Carnophage vint s'asseoir près d'elle. Elle ne sursauta pas. Sa petite main frêle se posa sur le pot de l'animal qui se mit à frissonner. Elle pencha sa petite tête vers les nouveaux arrivants.
« Vous venez voir papa ?»
demanda-t-elle de sa voix innocente. « Oui, » répondit Pied de sang. La petite fille fut surprise par la beauté d'Anouchka. Elle se redressa avec une agilité incroyable. Elle tenait dans sa petite main une grande clé anglaise. Une grande clé anglaise avec des cheveux en petits boulons et des yeux en bout de verre brisé. Son regard se porta sur Escar. Elle eut un grand sourire.
« Tu es de retour, »
dit la petite fille. Pied de sang observa son frère.
« Il est venu de nombreuses fois, mais papa a toujours refusé de lui donner ce qu'il voulait, »
dit la petite fille avec une voix douce. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Pied de sang. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Pied de sang.
« Solenza. Mais Arcadie n'arrête pas de m'appeler « Voix sans issue ».
Arcadie ? Il vient souvent ici ? Demanda Solitudinaire.
Je ne sais pas. J'ai un problème avec le temps.
Solenza frappa le chien avec sa poupée anglaise, d'une force peu commune pour une petite fille. L'impactophile plongea dans le vide. Elle eut un petit rire moqueur. Tous se penchèrent pour voir le pauvre animal s'écraser sur le fond de la fosse dans un ridicule petit nuage de poussière. Solitudinaire observa Solenza. Il y eut un hurlement. Carnophage se précipita hors du sable, poursuivi par des légions de crabes de sable noir. Il remonta la pente de la grande dune à grande vitesse. Elle montra le château.
« Papa vous attend, »
dit la petite bourrelle. Solitudinaire frissonna en regardant le vide sous ses pieds. Il venait de se souvenir qu'il avait le vertige. Il attrapa la main d'Anouchka qui fut surprise. Ils avancèrent vers l'autre. Solitudinaire frissonna en regardant le vide sous ses pieds. Il venait de se souvenir qu'il avait le vertige. Il attrapa la main d'Anouchka qui fut surprise. Ils avancèrent vers l'autre côté.
Bien d'accord, ok, on va y arriver, les gars, on va y arriver.
Solitudinaire frissonna en regardant le vide sous ses pieds. Il venait de se souvenir qu'il avait le vertige. Il attrapa la main d'Anouchka qui fut surprise. Ils avancèrent vers l'antre du bourreau. Carnophage les rejoint à l'entrée. Il se cacha entre les jambes de Solitudinaire. Vox entendait des milliers de pinces claquer. Tout était grand, froid, rouillé, pleine de lames qui pendaient au bout des longues chaînes. Au centre de ce royaume de silence, un homme pendu par les pieds, des barbelés incrustés dans le corps et qui le liaient au sol. Son dos était lacéré, du sang coulait en petites gouttes monotones. Solitudinaire voulut cacher ce spectacle à la petite fille. Mais il vit dans son regard que pour elle, cela semblait presque normal. Elle eut un petit sourire en se tournant vers lui.
« Il aime faire cela, »
avoua-t-elle. « Il dit que c'est un bon moyen pour... »«
Il aime faire cela, » avoua-t-elle. « Il dit que c'est un bon moyen pour soulager sa conscience. »
Les barbelés commencèrent à s'agiter et à quitter le sol pour entourer dans un bruit atroce les bras. Les chaînes se délièrent et amenèrent le corps à terre. Dès qu'il toucha terre, les chaînes entourèrent ses jambes en serrant avec force. Le bourreau se leva doucement, presque avec regret. Il leur fit face. Il était d'une taille impressionnante. Sa peau prit une teinte de rouille. L'acier du sol se déchira pour venir l'habiller. Aucune chevelure, de la poussière de rouille sur son crâne. Son visage était terrible, des yeux entièrement noirs, du vide à la place des joues, des dents comme des vis brisées. une barbe en paille de fer qui ne cessait de se mouvoir comme une mer en pleine tempête. L'acier continuait à le recouvrir jusqu'à devenir une armure bien plus inquiétante que celle d'Escar, bien plus lourde et bien plus dangereuse. C'était devenu une structure vivante qui tendit un bras de la taille et du poids de Solitudinaire. Une hache à double lame apparut dans sa main.
« Je te donnerai ce que tu cherches, » dit le bourreau.
Sa voix était atrocement métallique. « Pourquoi ?» demanda Solitudinaire. « Ah, c'est mieux. »«
Je ne te donnerai pas ce que tu cherches, » dit le bourreau.
Sa voix était atrocement métallique. « Pourquoi ?» demanda Solitudinaire.
« Tu n'as pas encore fini ton histoire. » Quand le temps viendra, je te ferai passer la ligne.
Mais je ne veux pas continuer cette absurdité.
Cela ne me regarde point. Numéro Vox. Umbrello attend ce jour depuis longtemps, mais la faim et la faiblesse qui s'y attachent l'empêchent de venir. Quand il sera devant moi, je ferai ce qu'il faut pour lui.
Solenza commença à s'agiter. Le terminal s'arrêta pour la fixer. Tous se tournèrent vers elle. Canophage commença à grogner. Quelque chose tournait autour de Solenza. Une forme qui échappait encore à leur rétine. Mais qui chasse... Quelque chose tournait autour de Solenza. Une forme qui échappait encore à leur rétine. Mais qui chaque seconde prenait une forme animale. Un chat. Un chat à la peau de chair brûlée. Presque déchirée par endroits. Avec des os qui apparurent. Quelque chose tournait autour de Solenza. Une forme qui était... Quelque chose tournait autour de Solenza. Une forme qui était... Solenza commença à s'agiter. Le terminal s'arrêta pour la fixer. Tous se tournèrent vers elle. Canophage commença à grogner. Quelque chose tournait autour de Solenza. Une forme qui échappe.
Oh putain, c'est la gloire. Ouh, c'est la gloire.
Solenza commença à s'agiter. Le terminal s'arrêta pour la fixer. Tous se tournèrent vers elle. Canophage commençait à grogner. Quelque chose tournait autour de Solenza. Une forme qui échappe. Une forme qui échappait encore à leur rétine, mais qui chaque seconde prenait une forme animale. Un chat. Un chat à la peau de chair brûlée, presque déchirée par endroits, avec des os apparents. Des griffes écorantes qui suppuraient des pus, tout en se gravant. Des griffes écorantes qui suppuraient du pus. Tout en gravant dans le sol d'étranges écritures. Ces deux orbites vides pleuraient une espèce de suc qui ressemblait à du goudron. Sa bouche n'avait plus qu'une seule canine longue et noire. Sa langue traînait hors de son palais en ruine. Même sa truffe était ravagée par une brûlure qui semblait dévorer inexorablement ce corps. Ce n'était d'ailleurs pas tant ce corps qui le rendait terrible et monstrueux, mais l'attrait qu'il avait pour Solenza. Il ne cessait de vouloir se frotter à elle, à la désirer, à vouloir rentrer dans sa chair. Tout le monde se retenait quand ses griffes glissaient près de la jambe de la jeune fille.
« Oh, il est revenu le chat chimio !»
dit Solenza à l'adresse de son père. Elle semblait...
« Oh !» Il est revenu, le chat chimio, dit Solenza à l'adresse de son père.
Elle semblait désolée, presque résignée.
Non, ce n'est pas vrai, répondit le terminal. Solitudinaire, y a-t-il un chat près de ma fille?
Oui, répondit Vox. L'armure commença à craquer. Sa peau apparut de nouveau à travers les fissures. Il semblait même lutter contre cet acier, mais la matière l'emporta. Il hurla. La hache tomba.
Ça va recommencer, papa,
demanda Solenza en serrant sa poupée anglaise contre elle.
« Oui, » répondit une voix terrible qui émanait de l'armure.
Il tendit sa main vers sa fille. Le bras s'allongea jusqu'à elle et la décolla du sol. La poupée anglaise tomba à terre.
Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Pied de Sang en murmurant.
L'armure gronda et sa gueule... s'ouvrit en grand. Canophage se mit à hurler. La petite fille frissonna en regardant les nouveaux arrivants. Anouchka gémit en comprenant ce qu'il se passait. Elle écrasa la main de Solitude inerte qui restait hypnotisée par ce spectacle atroce. La tête de Solenza disparut dans ce gouffre mécanique. Les dents se plantèrent dans le dos de l'enfant. Les os se brisèrent. Le sang gicla sur la rouille. Solenza ne cria pas. Le terminal mangea son enfant. Les visiteurs restèrent muets. Le chachimio, fulant comme un beau diable, se mit à fondre et disparut rapidement, englouti par le sol, comme s'il n'avait jamais existé. Dès que le dernier morceau de chair glissa dans l'enfer de cette bouche, l'armure commença à se fendre. Des morceaux entiers quittaient la peau de Terminal, comme s'ils accouchaient de cette masse rouillée, comme si... Sa peau fit de nouveau surface. Du sang coulait de sa bouche. Des morceaux entiers quittaient la peau du terminal, comme s'il accouchait de cette masse rouillée. Sa peau fit de nouveau surface. Du sang coulait de sa bouche et à travers de ses joues creuses. Le sang de sa fille. Il regardait l'horizon. Des morceaux entiers quittaient la peau du terminal, comme s'il accouchait de cette masse rouillée. Sa peau fit de nouveau surface. Du sang coulait de sa bouche et à travers ses joues creuses. Le sang de sa fille. Il regardait l'horizon. Les barbelés lui vrillaient sa peau. Le bruit était tout aussi effroyable que la colonne vertébrale qui se brisait. Ses bras furent écartelés à l'extrême. Les chaînes tendirent ses jambes vers le plafond jusqu'à ce que ses os soient à la limite de rompre. Il restait ainsi, la tête en bas. La peau de son dos s'envahit de longues balafres. Le sang coula à terre. « Et moi ?» murmura Solitudinaire.
Je voulais juste mourir. »
Pied de Sang lui lança un regard noir.
« J'en ai marre de les nourrir, » dit-il au bout d'un long moment. « Je me sens si fatigué. »«
Alors arrête tout !» répondit Anouchka.
« Mais je ne peux pas, c'est mon boulot. Nous irons voir Arkady. »
Solitudinaire observa le terminal. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » demanda-t-il.
« C'est la légende, » dit Pied de Sang en regardant son frère. « Le terminal doit dévorer sa fille chaque fois que le chat chimio fait son apparition, sinon ce dernier la anéantira par jeu. Elle va bientôt renaître dans la propre chair de son père.
C'est son poison ?»«
Da.
Encore un tour de vodka. Le terminal est bien plus vieux que vodka. » Il était l'un des premiers, comme Umbrello et la croque-mitaine.
Alors, c'est l'œuvre du vieux moisi.
Le vieux moisi?
Celui que Vodka a remplacé. Comment a-t-il fait pour le tuer?
Vodka m'a dit qu'il l'avait tué lui-même. Et on ne peut pas mourir ici.
Vodka est un affreux menteur. C'est le terminal qui l'a fait disparaître, sans doute sous les ordres d'Arkady.
Le terminal semblait réciter des bribes de psaumes qu'il était le seul à comprendre. Solitudinaire soupira. Il semblait que pour une fois, les chemins de l'existence de ce monde l'amenaient vers ta...
Oh putain.
Le terminal semblait réciter des bribes de psaumes qu'il était le seul à comprendre. Solitudinaire soupira. Il semblait que, une fois de plus, les chemins de l'existence de ce monde l'amenaient vers Arcadie. Pied de sang posa sa tête sur son épaule. Il passa son bras autour de sa taille. « Ramenez-moi le clochard !» tonna le terminal. « Ramenez-moi le clochard !» tonna le terminal. « Son temps est venu !»«
D'accord, mais ensuite ce sera mon tour. »
« Cela ne marche pas ainsi, numéro Vox. »«
Moi contre lui. »«
Amenez-moi numéro Scarapinelli, » ordonna le terminal d'une voix qui refusait la discussion.
Le sang coulait sur le crâne du terminal.
Solitudinaire soupira une nouvelle fois. Il avait encore perdu la partie. Il entendait dans l'immensité de la salle résonner la voix de Vox, dire entre deux rires,
« Tu es faible, Soli. Tu es faible. »